Oui. Okay. Impact.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur 48FM pour cette émission spéciale. Une émission spéciale présentée par Garance Hugo et Arnaud Van Combrugge. Bonjour Garance.
Bonjour Marine, bonjour Arnaud. Oui, une émission spéciale consacrée à une enquête réalisée par 4 étudiants de l'Université de Liège. Pendant plusieurs semaines, Éléonore, Laura, Salomé et Inès, 4 étudiants de première année de master en journalisme, ont enquêté avec leur professeur David Leloup. Un premier plongeon dans le grand bain qui les a menés aux dessous sombres de l'univers syndical, Arnaud.
Menaces, harcèlement, règlement de compte, deux permanents syndicaux de la CGSP, récemment évincés du syndicat, viennent de se constituer partie civile. Ils ont déposé une plainte pénale fin novembre entre les mains d'un juge d'instruction à Liège. Ils accusent Patrick Lebrun, secrétaire interrégional wallon de la CGSP, le syndicat du service public, de les avoir menacés par téléphone. Ceux-ci se tenaient, entre guillemets, le mauvais candidat à la prochaine présidence de l'interrégional wallonne, ce qui n'a pas plu à Patrick Lebrun, une affaire d'intimidation sur fond électoral.
Pour décortiquer tout ça, nos apprentis investigateurs sont avec nous en plateau, ainsi que Maître Martalo, l'avocat de Michael Novelli, l'une des 3 victimes de ces menaces. Laura, tu es l'une des 4 étudiantes qui a participé à cette enquête. Peux-tu nous rappeler les faits ?
Alors le 25 mars 2021, vers 22h, le téléphone de Michael Novelli sonne. Il est à l'époque secrétaire régional à Mieux-Liège. C'est Patrick Lebrun, son supérieur hiérarchique, qui l'appelle. Novelli décroche et au bout du fil, cette musique. Alors vous l'avez tous reconnu, il s'agit de la musique du film Le Parrain, un air au Roland mafieux. Et Lebrun conclut par cette question, tu as bien compris, avant de raccrocher. Ce soir-là, 2 autres membres de la CGSP reçoivent un appel semblable, dont Frédéric Henry, alors vice-président du secteur à Mieux-Liège. Pour les 3 hommes, c'est l'incompréhension totale. Ils vont d'abord trouver Patrick Lebrun dans son bureau pour essayer d'obtenir une explication. Celui-ci va se justifier sans s'excuser. Il est sous pression, dit-il, et se sent trahi par le soutien des 3 hommes apportés à Joël Thaune au poste de président de la CGSP.
Alors pour illustrer ton propos, on écoute un extrait de l'interview de Michael Novelli.
À l'acte de candidature que Joël Thaune dépose, que les menaces arrivent parce que... Peut-être qu'il ne s'attendait pas à l'acte de candidature. Quand l'acte de candidature arrive, il se rend compte qu'on a à l'unanimité soutenu Joël Thaune à Liège et donc que le secteur amio-liégeois a soutenu son secrétaire régional intersectoriel au poste de président. Et ça ne lui va pas parce que, selon lui, on l'a trahi. C'est comme ça qu'on l'a compris dans la discussion qu'on a eue avec lui après coup. Et au moment des menaces, enfin des appels nocturnes, ça je maintiens bien, on ne comprenait pas de quel enjeu il retournait.
Après la rencontre, Laura, la situation semble apaisée.
Oui, mais les 3 syndicalistes maintiennent leur soutien à Joël Thaune, ce qui continue de créer des tensions au sein de l'interrégional. Et un soir, Novelli reçoit un nouvel appel.
Un air de Renan Luce, lourd de menaces, selon Novelli.
J'ai reçu encore un appel nocturne du même Patrick Lebrun, où il me met la musique de Repenti de Renan Luce, une musique encore liée à la mafia, à la Camorra, et qu'à la fin du clip, quand on vérifie ça, Le protagoniste du clip se fait buter parce qu'il a trahi.
Et le lendemain, Laura, Novelli rappelle alors Lebrun pour s'expliquer, c'est ça ?
Oui, Lebrun reconnaît alors les menaces et assure cette fois-ci qu'il ne recommencera pas. Pourtant, le conflit va s'envenimer, une année va s'écouler et Frédéric Henry, également victime des menaces de Lebrun, est convoqué par Michel Meyer, alors président fédéral de la CGSP. Frédéric Henry s'en souvient très bien.
Il me fait monter dans son bureau, c'est la première fois que j'y vais, très beau bureau, tout vitré. Vu sur Bruxelles, je me retrouve face à Michel Meyer, donc président fédéral, à M. Schwanzer, qui est le DPE pour la CGSP, donc c'est le garant des données privées, et un juriste. Et ils font comme vous, ils m'écoutent pendant une heure. Donc j'explique tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi, que je suis malade, que je suis à traitement, que j'ai été exclu, que je me sens complètement abandonné. Et ils m'écoutent et ils ont l'air quand même atterrés. Le président dit qu'il comprend, que c'est dur, qu'il est derrière moi, mais qu'il ne sait rien faire. Et il me raccompagne à l'ascenseur. Et là, il me tape dans le dos devant ma compagne. Et il me dit, je dois quand même te dire un truc. Dans les statuts, si tu portes le problème vers l'extérieur, tu seras exclu sur le champ. Chose que j'ai été quand même après, hein, j'ai été exclu.
Quelques mois après, ils sont donc bien exclus du syndicat. Maître Martalo, je me tourne vers vous à présent. Vous êtes l'avocat de Michael Novelli.
Oui, bonjour.
Bonjour. Que reproche-t-on concrètement à votre client ? Pourquoi est-il exclu ?
Voilà, merci de me donner la parole. Alors, c'est une excellente question. La réponse est la suivante. En fait, on a constitué de toutes pièces des griefs et on les a cousus de fil blanc pour essayer de noircir l'image de M. Novelli. Et lorsque M. Novelli s'est insurgé contre les griefs en question, qui sont tout à fait non établis, non démontrés et contestés avec force, comme je le disais, eh bien, il a utilisé la procédure prévue par les statuts. Et on lui a dit, ben finalement, la décision est déjà prise, enfin, bon, oui, ok, on t'entend, ordre de café, le dessert, mais la décision est déjà prise. Donc, ce qu'on a fait très concrètement, c'est qu'on s'est assis sur la procédure prévue par les propres statuts de la CGSP, d'une part, d'autre part, sur le principe contradictoire qui est quand même un principe fondamental dans notre droit positif belge. Donc, c'est un procédé qu'on pourrait qualifier de stalinien.
Mais alors, que s'est-il passé réellement ?
Alors, ça, c'est encore une excellente question, ce qui s'est passé réellement. Donc, moi, je ne suis pas là, évidemment, pour faire un procès d'intention à qui que ce soit. Il y a des principes généraux applicables. Le dossier est à l'instruction chez un juge d'instruction, ça a été dit tout à l'heure. Donc, il y a le secret d'instruction, il y a la présomption d'innocence, il y a toutes sortes de principes en jeu. Néanmoins, M. Novelli a une caractéristique qui est la suivante, c'est que c'est un idéaliste, dans le bon sens du terme. Donc, c'est quelqu'un qui a des idéaux, des idées, des grandes idées, et qui les poursuit. Et lorsqu'il est rentré dans l'institution syndicale, c'était mu par ses idéaux. Et il s'est rendu compte, sans vouloir jeter l'opprobre sur tout le système, qu'il y avait en tout cas des sous-systèmes, des éléments qui interagissaient entre eux, et qui ont voulu aligner Novelli. Mais aligner dans le mauvais sens du terme, parce que ces éléments fonctionnaient de manière inique. Novelli ne s'est pas laissé faire. Donc on a voulu déboulonner Novelli. C'est ça qui s'est passé, à notre sens. Et aujourd'hui, Novelli, non seulement qui n'est plus dans le système, ça lui reste en travers de la gorge parce que c'est un sincère. Donc ce qu'il aimerait évidemment, c'est dénoncer ce qui dysfonctionne à son estime, d'une part, et d'autre part, il a subi un dommage personnel et direct, et il souhaite évidemment obtenir réparation.
Et quel est ce dommage exactement? Et du coup, que réclame-t-il?
Alors, lorsque, et on l'a rappelé tout à l'heure à juste titre également, on reçoit comme ça vers 23 heures des appels téléphoniques, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, ils ont été successifs, en faisant écouter des morceaux de musique qui sont bien choisis, des morceaux de musique, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, où la fin, la chute du morceau de Renan Luce, c'est effectivement la liquidation de celui qui a parlé. Lorsqu'on choisit d'autres morceaux de musique de ce style-là et qu'on dit « t'as compris » et qu'on raccroche, et tout cela est objectivable parce que c'est allé sur la messagerie vocale de Novelli. Donc Novelli a pu faire écouter les messages aux enquêteurs. Et on a d'autres éléments, évidemment, qui objectivisent ce que Novelli raconte. Eh bien, quand on reçoit ça le soir, à tout le moins, on ressent une charge mentale, une chape de plomb. Et au quotidien, ça fait mal. Donc Novelli subit un préjudice moral, sa famille en a pâti, sa famille subit un préjudice et subit aussi un préjudice professionnel. À titre personnel, c'est de tout ça qu'il va réclamer réparation et c'est pour ça qu'il s'est constitué partie civile en main d'un juge d'instruction à Liège.
Et donc du coup, quelle est cette réparation ? Enfin, alors, quel est le montant réclamé ?
Voilà, le montant réclamé finalement aujourd'hui est fixé à titre provisionnel. Donc le juge d'instruction, c'est un juge indépendant qui va instruire un dossier à charge et à décharge. Et à ce stade-ci, le dommage de Novelli est fixé provisionnellement, c'est-à-dire au provisoire finalement. Il est fixé aujourd'hui à un montant de 5 000 euros provisionnels, mais il est bien évident que le dommage pourrait être revu à la hausse en prosecution de cause. C'est simplement, techniquement, lorsqu'on se constitue partie civile en main d'un juge d'instruction, il faut chiffrer le dommage, mais celui-ci est évolutif dans le courant de la procédure, le cas échéant.
Merci, Maître Martalo.
Je vous en prie.
Salomé, je me tourne à présent vers toi. Dans le cadre de votre enquête, vous avez découvert d'autres éléments interpellants concernant Patrick Lebrun.
Oui, effectivement, on lui reproche également, à lui et à un de ses collègues, Pedro Brega, de ne pas jouer selon les règles du jeu lorsqu'il s'agit de se mettre en grève. Dans toute sa carrière, Patrick Lebrun ne s'est presque jamais déclaré en grève et son compère, pas une seule fois. Une situation étonnante pour des représentants syndicaux.
En soi, encadrer les manifestants, c'est leur travail. En quoi donc est-ce problématique qu'ils aient touché leur salaire ?
En fait, il est prévu que les représentants syndicaux soutiennent les grévistes pour les grèves interpersonnelles et intersectorielles. Bien sûr, ils n'ont pas à se mettre en grève à chaque fois qu'il y en a une. Par exemple, si le secteur de l'Oreca manifeste, les syndicalistes des services publics n'ont pas à le faire. Par contre, dès qu'une grève concerne les secteurs, leur secteur, le statut de Lebrun, secrétaire interrégional, et de Vega, délégué permanent, le demande. Ils doivent alors se déclarer en grève et touchent alors une indemnité de 40 euros par jour à la place de leur salaire. En soi, ne pas se déclarer en grève n'est pas juridiquement condamnable, mais questionne la solidarité de ses représentants syndicaux.
Donc, durant toute leur carrière, Lebrun et Vega ne se sont quasiment jamais déclarés en grève. Cette affaire, dévoilée par un lanceur d'alerte en interne, a fait des remous. Et ça a forcé la CGSP à remettre les points sur les i, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En interne, des documents ont fuité. Et à partir de ce moment-là, Michel Meyer, le président de la CGSP, a été en quelque sorte forcé de rappeler la procédure à respecter. Dans un mail qu'il a tourné, il est dit qu'il n'y a pas de problème à ce que les représentants syndicaux se déclarent en grève, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire au début. Mais il existe des cas où les employeurs refuseraient que les employés se portent en grève, et dans ce cas-là, ils devraient alors verser 1/30 de leur salaire mensuel net, et cela afin d'alimenter le fonds de grève.
Alors depuis le début de cette émission, on parle de différentes notions. Dans l'enquête publiée dans Le Vif, on retrouve celle de menace par emblème. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement et quelles sont les sanctions envisagées pénalement ? Dorine Donati a rencontré Adrien Masset, professeur en droit pénal à l'Université de Liège.
Différents types de menaces existent, verbales, orales, écrites ou par gestes. Parmi ces gestes, la menace par emblème, plus méconnue.
Alors les gestes, les menaces par emblème, là-bas c'est par exemple envoyer une enveloppe avec une balle ou une douille dans l'enveloppe, la personne qui la reçoit a bien compris qu'il s'agit d'une menace. Le code pénal sanctionne ce type de comportement. C'est menacer quelqu'un d'un mal sérieux en utilisant des moyens qui sont de nature à l'impressionner.
Un appel téléphonique, même s'il n'est pas ressenti comme une menace, peut perturber la tranquillité d'esprit.
Si c'est une musique qui a été adressée par téléphone, on parlera plutôt de harcèlement téléphonique, où il y a une loi spécifique qui sanctionne l'utilisation du téléphone à des fins étrangères à une communication normale. Il n'est pas requis que ce soit répétitif, et dans ce cadre-là, la peine est même supérieure à celle qui est prévue pour les menaces par emblème.
En fonction des situations, des indemnisations supplémentaires sont prévues.
Si la victime a été en incapacité de travail, dans ce cas-là, cette victime peut demander l'indemnisation d'un dommage moral par jour d'incapacité d'une part, et d'autre part, la mutuelle elle-même, puisqu'il s'agit d'infractions intentionnelles, la mutuelle pourrait se retourner également contre l'auteur de l'infraction pour lui réclamer des dommages et intérêts, puisqu'elle a dû intervenir suite à une maladie qui a été causée par l'infraction commise par quelqu'un.
Alors parmi les autres notions abordées, il y a également la CGSP, syndicat, le secteur amieux liégeois. On se perd un peu dans toutes ces notions. Alors Enes, peux-tu éclairer notre lanterne ? C'est quoi exactement la CGSP et comment se structure-t-elle ?
Bien sûr Arnaud, la CGSP c'est la Centrale Générale des Services Publics. Il s'agit d'un syndicat belge socialiste qui affilie tous les travailleurs des services publics. La CGSP est une centrale de la FGTB, la Fédération Générale du Travail de Belgique, qui est l'interprofessionnelle qui coordonne 6 différentes centrales indépendantes, dont la CGSP. En Wallonie, la CGSP comptabilise 260 000 membres.
Et les faits que vous avez mis en lumière dans votre enquête concernent-ils toute la CGSP ?
Ben non, ils ne concernent qu'un secteur de la centrale. En fait, la CGSP compte plusieurs secteurs, comme celui de la poste pour Bipost ou celui des cheminots pour les trains. Dans le cas de l'enquête, c'est le secteur amiot-liégeois qui est concerné, c'est-à-dire le secteur de l'administration et des ministères pour Liège. Au moment des faits, Frédéric Henry était vice-président et mandataire permanent pour Amiot-Liège et Michael Novelli, secrétaire régional.
Tu parles de mandataire permanent, c'est comme un délégué syndical donc.
Eh bien, pas tout à fait. Un délégué syndical représente les travailleurs au sein d'une entreprise, tandis qu'un permanent syndical lui, est un syndicaliste qui se détache partiellement de son activité professionnelle pour travailler dans l'organisation syndicale. Cela signifie qu'il travaille dans l'organisation, mais en même temps, il doit toujours rendre des comptes à son à son entreprise.
D'accord, donc la position des victimes au sein de la CGSP est plus claire à présent. Mais pour Patrick Lebrun, quelle est sa fonction et pourquoi est-il si difficile à déloger ?
Eh bien, Patrick Lebrun est le secrétaire général de l'interrégionale wallonne de la CGSP. Son but est de coordonner la coordination et le bon fonctionnement des différentes régionales de la CGSP en Wallonie, dont celle de Liège qui compte Amiens-Liège. En d'autres termes, Patrick Lebrun se situe plus haut dans la hiérarchie que les victimes au moment des faits. C'est pourquoi il est difficile de s'attaquer à lui. Seul Michel Meyer, président fédéral de la CGSP et donc au-dessus de Patrick Lebrun, pourrait le faire. Toutefois, il ne semble pas se sentir concerné par l'histoire.
Alors nous allons maintenant aborder les backstage de cette enquête. Éléonore, je me tourne vers toi. Tu as participé à cette investigation et donc pour en savoir un peu plus sur les coulisses, quelles ont été les premières difficultés rencontrées ?
Alors la grosse difficulté était de comprendre la complexité de la structure syndicale. C'était la première fois qu'on s'intéressait à ce genre d'organisation et on s'est vite rendu compte que chaque personne avait un titre donnant l'impression qu'ils occupent tous un poste important. Président, vice-président, secrétaire, délégué ou permanent, cette constellation de titres rend difficile la compréhension de la hiérarchie et des relations de supériorité entre les acteurs. Une fois que les rôles étaient plus clairs, pour nous, on a pu écrire la première partie, mais c'est vraiment quand on a voulu se renseigner pour la seconde partie que c'est devenu beaucoup plus compliqué.
Et lorsque vous avez dû enquêter auprès des membres de la CGSP, comment se sont passés les premiers contacts ? Avez-vous ressenti de la méfiance ? Avez-vous eu des difficultés particulières pour recueillir des informations ?
On a directement été confrontés à un mur, en fait, même pour obtenir ou vérifier des informations très simples. On avait déjà publié 2 articles auparavant, donc un climat de méfiance s'est installé au sein de la CGSP et la plupart des personnes que nous avons contactées ont catégoriquement refusé de nous parler. Certains ont eu des mots assez secs, on nous a raccrochés au nez, et ils se renvoyaient tous la balle entre eux en disant ne pas être compétents pour nous répondre. Nous avons notamment tenté d'obtenir des réponses de la part du président fédéral, Michel Meyer, et pour sa part, il a évoqué des potentielles poursuites judiciaires à venir et a exprimé vouloir réserver ses propos pour un éventuel procès. Un mur de silence s'est installé, ce qui a rendu compliqué notre quête de vérité.
Donc nous avons entendu le point de vue des victimes, de cadres de la CGSP, mais le protagoniste principal, Patrick Lebrun, avez-vous réussi à le contacter ? A-t-il pu s'exprimer sur cette affaire et donner sa version des faits ?
Alors dans un premier temps, Patrick Lebrun a évité de nous répondre, mais on a fini par le joindre après plusieurs tentatives. Il a assuré à cette occasion s'être déclaré en grève régulièrement et avoir des documents pour le prouver. Nous avons donc vérifié ces documents et ceux-ci montrent qu'il a simplement renoncé au chèque-repas auquel il a le droit en allant manifester, mais cela ne prouve absolument pas qu'il a fait les démarches pour obtenir des indemnités de grève. Pour vous donner une idée, chaque chèque-repas équivaut environ à 6 euros, 6 euros donc dont il s'est privé en percevant tout de même l'intégrité de son salaire. Une somme du moins dérisoire face aux 40 euros qu'un gréviste perçoit normalement par jour de grève. Alors nous avons tenté également de contacter Patrick Lebrun une dernière fois pour l'informer de l'affaire concernant les menaces et pour obtenir également une réaction de sa part, mais il a coupé court à l'appel en déclarant n'avoir rien à nous dire. Il a bien insisté aussi sur le fait que nous entendrions bientôt parler de lui.
Alors qu'est-ce que vous retirez de cette investigation ? Quelle est l'image qui se dégage de l'univers syndical liégeois à travers votre regard de jeune journaliste ?
Cette investigation a permis de montrer les dysfonctionnements dans ce syndicat. On parle de menaces, de harcèlement, on assiste à des règlements de compte. On comprend que certains ont des intérêts cachés qui les poussent à ne pas jouer selon les règles et qu'ils s'estiment tout puissants. Donc à nos yeux, on a l'impression d'avoir affaire à un système mafieux en action au final. Et pour citer un cadre de la CGSP que nous avons contacté, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de la CGSP.
Une conclusion shakespearienne donc pour clôturer les coulisses de cette investigation. Un système opaque qui est à l'œuvre au sein de la CGSP, une loi du silence qui règne. Maître Martalo, une dernière question et le mot de la fin. Qu'est-ce que vous espérez à la suite de cette enquête ?
Nous espérons de la clarté et que justice soit faite.
Simple et concis. Merci beaucoup, Maître Martalo, pour vos réponses et votre présence sur ce plateau.
Merci à vous.
Merci à Laura, Salomé, Éléonore, Enès qui ont mené l'enquête. Merci à Marine et Dorine en régie. Merci Garance pour cette coprésentation. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve ce soir à 18h pour une nouvelle édition du Journal Parlé. Bonne journée à tous sur 48FM. Impact.